Bonjour Sylvie.
Bonjour Walter.
La jouissance des droits est limitée pour une femme mariée, Sylvie.
Effectivement Walter, la loi congolaise conditionne l'exercice de certains droits d'une femme mariée à l'autorisation préalable de son mari. Cela veut dire que la femme ne peut intenter une action judiciaire sans l'avis de son mari. C'est pourquoi d'ailleurs on parle d'incapacité juridique de la femme mariée. Mais dans certains cas, elle peut le faire quand même. Je vous invite d'ailleurs à écouter les explications de Madame Mujinga. Elle est présidente du tribunal de grande instance de Matete.
Généralement, une femme mariée ne peut pas rester en justice sans l'autorisation de son mari. Sauf dans les cas où l'action qu'elle veut introduire, elle la forme contre ce même mari-là. Par exemple, en cas de divorce ou de revendication de certains droits. Mais tout autre acte, pour que la femme puisse poser ses actes, il faut l'autorisation de son mari, du moins au niveau de la justice.
Par exemple, donnez-nous un cas, s'il vous plaît.
Je peux prendre le cas d'une femme qui se retrouve en train de demander le déguerpissement, par exemple une femme mariée qui vient demander le déguerpissement d'un locataire, ou une femme mariée qui veut récupérer une créance. Par exemple, il y a quelqu'un qui lui doit de l'argent, elle veut demander, elle veut récupérer cette créance auprès de la justice, il lui faut l'autorisation du mari. Il y a aussi le cas, en dehors de rester en justice, une femme mariée dans notre pays, dans notre code, pour ouvrir un compte, il lui faut nécessairement l'autorisation de son mari.
Voilà, il y a beaucoup d'autres cas, on les évoquera tout à l'heure, aussi en détail avec Maître Dominique, parce qu'il sera lui en direct. Là, on a juste pris un extrait de Madame Mujinga qui reçoit pas mal de cas du genre au niveau de son tribunal. Mais, Sylvie Sonin, que peut faire une femme qui est lésée dans ses droits? Est-ce qu'au niveau des tribunaux, les juges en ont suffisamment traité pour qu'on puisse mieux comprendre comment ça se passe?
Walter, selon Madame Mujinga, ces cas sont assez fréquents, pour ne pas dire... Il y en a tellement, tellement, je vous invite d'ailleurs à l'écouter une fois de plus.
Si le mari refuse de lui accorder l'autorisation, il peut saisir le tribunal de paix, hein. Le tribunal de paix, hein, il va écrire au président du tribunal de paix qui va examiner le cas. S'il s'avère que le mari s'oppose par mauvaise foi, à ce moment-là, le tribunal pourra ordonner la levée de cette opposition, quoi.
Même cas pour une femme qui veut ouvrir un compte?
Oui, pour une femme qui veut ouvrir un compte. Généralement, vous savez, quand vous allez... auprès des banques, hein, ils vous demandent carrément l'autorisation du mari. Hein.
Et lorsque vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas ouvrir ce compte?
Quand vous n'en avez pas, oui, il y en a qui refusent carrément. Vous savez, il y a aussi un problème, c'est que beaucoup de sociétés, beaucoup d'institutions publiques dans notre pays, d'institutions privées, en font leur propre affaire. Moi, je crois que l'autorisation de la femme, quand bien même c'est prévu par la loi, si le mari ne s'oppose pas, en principe, il ne devait pas y avoir de problème. Mais comme la loi le prévoit, à ce moment-là, tout le monde est obligé de se conformer à la loi.
Et bien voilà, ça vous intéresse, ça vous concerne, n'hésitez pas à nous envoyer vos réactions et suggestions par rapport à ces sujets. Je rappelle le numéro d'appel 081 890 63 94. Ce qu'on vient d'entendre est assez... impressionnant. Est-ce que, Sylvie Sona, vous avez pu rencontrer une femme dont le mari a refusé le droit d'ester en justice, par exemple?
Nous avons effectivement rencontré plusieurs femmes, mais aucune d'entre elles n'a accepté de dire quoi que ce soit contre son mari.
Au micro, elles vous disent,
oui,
ça existe,
mais personne
ne veut parler.
En fait, personne sauf une.
Ah, d'accord.
Personne sauf une. Donc, nous avons rencontré une femme qui a vécu cette situation. Je vous invite à écouter son témoignage, mais il faudrait relever que cette fois-ci, nous n'avons pas modifié sa voix. La dame nous a juste demandé de taire son nom, mais qu'elle acceptait que son mari reconnaisse sa voix pour que c'est une façon pour elle de faire voir à son mari qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire.
Eh bien, on va écouter.
Alors, côté comment on marchandise Nangai, on a un client qui a PC marchandise, et ça dit que tant que Ango, il fallait normalement devoir Anga, nous avons eu le soutien. Des semaines après, nous avons eu le soutien. Luki, Luki, nous avons eu le soutien. Et ça dit que moi, on a eu le soutien. Il fallait voir à Zaki, il y a moins de belles. Na luki luki na zo mona ete na kenanda kunaye mwasi na zo bomba e Navi lobi na salanini. Nae na ibisi mobile nanga. Papa tala likambuza boye za boye. Biloko nanga ekiti po mutun boye na pesa ki biloko alingo pesa ambonote. Na ibisi soke za boye to to funda e comme ça to ma, justice et la ndela makambongo. Mobile nanga aboyi. Na ibite po msupo ya banga makambu aboyi. Oh, tozé là, toke na wakara malem, malem, be malem, malem, mais aussi mate, puisque moutonga zo ki, manga mbongo nanga, e kwe ina kiti. Eh, bisi, to lande la likamongo, aboyi na mouté mamo, akoubouta ma kelele, komi likamo koswa, na nazo komponente, abinanga o, yo soko ebite ko, komega kofunda moutonga, ebite ozana incapacité juridique, ti ezawana, soki avinanga ete, akor nanga te, ouri kofunda moutonga na justice. Nenga ibisi nga ndengwana, na vandi pet.
Koyo, sara kini loko papa na lingi, to tikipe likamongo karaboye.
Ah, na sara ni. A ibisi nga azan incapacité juridique, si koyo, mwoye na fundi, zekata na fundi, Barotu nanga so mba nanga zaidi d'accord ne mba nanga zaidi d'accord te moyena ki ndiliboso ezate tant nazo insisté e komunika mokoso ne komunika mokomina senga na komiko banga na munye wa opa de libana nanga likola nyungwana yango na vandi kaka.
Et voilà, on vient d'entendre, mais qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, un petit résumé, une synthèse en français pour ceux qui n'ont pas compris l'idée.
Cette femme, Walter, explique que quelqu'un lui a contracté une dette et que deux semaines après la date d'épurement de cette dette, ce monsieur ne s'est pas présenté. Elle s'est rendue chez ce monsieur, mais elle n'a pu le voir, étant donné que son commerce est en train de péricliter. Elle en a parlé à son mari, elle lui a demandé de porter l'affaire en justice, mais celui-ci a refusé catégoriquement. Malgré son insistance, le mari refuse toujours et la menace même de divorce. Cette femme a préféré, selon ses dires, se soumettre et par conséquent protéger son mariage.
Mais alors, est-ce qu'il y a quand même une chose assez particulière que Madame Mujinga a préconisé, notamment qu'une femme dont le mari lui refuse l'autorisation peut obtenir du tribunal l'obligation du mari à accorder cette autorisation. Est-ce qu'elle a fait?
Cette femme a dit que, comme vous l'avez entendu, elle n'a pas voulu en arriver là de peur d'en arriver au divorce. Elle a préféré protéger son mari, son mariage.
Elle s'est donc résignée. Elle préfère sauver son foyer, renoncer à ses droits. C'est une décision assez pénible à prendre.
C'est vrai. On ne peut même pas appeler ça sacrifice, mais elle accepte cette situation parce que elle veut protéger son mariage, elle aime son mari, elle accepte sa décision, même si elle n'accepte pas, mais elle se soumet.
Y a-t-il des hommes qui comprennent ce genre de choses et qui facilitent les choses à leurs épouses?
Il y en a quand même. D'ailleurs, nous avons pu avoir un homme qui est quand même assez, écoutez-le, il est quand même assez partagé sur la question, écoutons-le.
On va l'entendre.
Quel inconvénient à ça, mais sauf que je dois connaître le numéro de compte et tout. Il y a le vrai compte. Elle doit me donner son numéro également. Donc, c'est-à-dire que...
Donc la condition que vous donnez, c'est que votre femme vous avertisse au préalable et qu'elle vous communique le numéro de compte.
Non, en fait, pas forcément me faut venir. Elle peut le faire sans mon consentement, elle vient me le dire après, mais je connaisse en fait le numéro de compte.
C'est pas secret un numéro de compte?
Ah non, elle doit me le partager, il n'y a pas de secret entre mari et femme. Hein.
Ben oui, c'est vous qui l'avez interrogé,
oui,
au-delà
de
des
extraits choisis. Vous avez compris que j'ai omis la question, je lui ai demandé, est-ce qu'il est d'accord que sa femme ouvre un compte? Et la réponse qu'il nous a donnée, qu'il était d'accord, mais qu'au préalable, sa femme lui donne le numéro de compte.
A posteriori, plutôt.
Oui. Non, non, même après, il a dit qu'elle n'a même pas besoin de lui demander l'autorisation, mais qu'après avoir ouvert ce compte, elle lui donne le numéro de compte. Sans pour autant savoir que, je ne sais pas, que le numéro de compte parfois est privé et personnel.
Chers messieurs, est-ce que vous laisseriez vos épouses ouvrir des comptes à banque?
C'est ça la question.
On vous pose la question, vous pouvez réagir en appelant au 081-890-68-90. Monsieur qu'on vient d'entendre soutient qu'il n'y a pas de secret entre un homme et une femme.
Mais espérons que c'est réciproque. Est-ce que ce monsieur donne le numéro de compte à sa femme? Est-ce que ce monsieur donne son bulletin de paie à sa femme? C'est ça aussi, il montre son bulletin de paie à sa femme.
Moi, j'en connais des hommes comme ça.
Beaucoup de femmes ne connaissent pas le salaire de leur mari. Hein. Beaucoup de femmes.
Bon, c'est vous qui le dites. On va laisser ces femmes-là peut-être nous appeler et nous le dire elles-mêmes en appelant au 081-890-6890. Nous recevrons Maître Dominique Kamwandu, expert pour Avocats sans frontières, pour que avec lui, on rentre un peu en détail parce qu'ils ont une boutique de droit dans laquelle ils reçoivent beaucoup des situations juridiques. Peut-être qu'il y en a eu du genre, on en saura un peu plus tout à l'heure, mais aussi avec vous auditeurs, parce que vous allez intervenir. Lucilla Sylvie Sona, merci beaucoup. Je vous ai entendu prendre un ton d'une avocate qui défendait une chose.
Pas une femme pour rien quand même.
Le 8 mars approche, on va en entendre de toutes les couleurs. Je n'ose pas vous demander ce que vous feriez vous dans les mêmes circonstances. Enfin, vous ne répondez
pas. Vous connaissez déjà la réponse, Walter.
Toute personne majeure jouit et exerce librement ses droits. Quand bien même majeure, la femme mariée est limitée dans la jouissance et l'exercice de certains de ses droits. On l'a entendu tout à l'heure. La femme mariée doit requérir l'autorisation de son mari préalablement pour certaines circonstances. Eh bien, si ce dernier ne les lui accorde pas, il y a problème. Maître Dominique, bonjour.
Bonjour Walter.
C'est quand même assez drôle d'attendre que le droit ait prévu des choses comme ça. Peut-être pourquoi?
Bon, les règles qui nous régissent, particulièrement le code de la famille, dans son chapitre réservé aux personnes, prévoit des dispositions sur la capacité. Et le droit congolais distingue deux sortes de capacités. Il y a la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. En ce qui concerne la capacité de jouissance, elle est absolue à toute personne, quelle que soit sa condition, elle a la capacité de jouir de tous ses droits. Le problème se pose en ce qui concerne la capacité d'exercice, où il y a des limitations dans certains cas. Mais je vais d'abord préciser pour dire que selon le droit congolais, la femme mariée n'est pas incapable juridiquement. La loi, le code de la famille, en son article 125 ou 225, si je ne me trompe pas, détermine les personnes incapables. Et la loi les énumère. En énumérant, la loi parle des mineurs, parle des prodigues, des faibles d'esprit, des aliénés. Et ce sont ces personnes-là qui sont considérées sur le plan juridique comme étant des incapables. Et ces personnes étant incapables, elles ne peuvent pas poser seules des actes juridiques valables. En ce qui concerne les mineurs, pour poser des actes juridiques, ils doivent être représentés par leurs parents ou tuteurs. Donc ce sont ces personnes capables qui posent des actes en lieu et place des mineurs qui sont incapables. En ce qui concerne les faibles d'esprit, les prodiges, les aliénés mentaux et autres, eux, bien que majeurs, ne peuvent pas poser des actes juridiques seuls. Ils posent des actes juridiques avec l'assistance d'un curateur. C'est ainsi qu'en droit, on les appelle comme étant des personnes placées sous curatelle. Donc ce sont ces personnes-là, ce sont ces catégories des personnes qui sont juridiquement incapables en droit congolais. En ce qui concerne la situation de la femme mariée, la femme mariée est capable, elle jouit de tous ses droits, mais en ce qui concerne l'exercice de certains droits, il y a une certaine restriction. Mais on ne peut pas dire que parce qu'il y a une restriction, il y a incapacité, non.
Pourquoi il y a restriction? Pourquoi il y a limitation?
Bon, cela a été voulu ainsi par les législateurs, mais quand on examine l'exposé des motifs et les travaux préparatoires du code de la famille, on se rend compte que le législateur a voulu se conformer à la mentalité traditionnelle en privilégiant l'unité de commandement au niveau du foyer. Donc c'est ça qu'on lit dans l'exposé des motifs et dans les travaux préparatoires du code de la famille comme étant l'origine ou l'inspiration de cette limitation.
Il faut dire quand même qu'il y a eu une certaine évolution par rapport au code du travail. L'autorisation maritale n'est plus exigible.
Effectivement, mais moi je vais dire que avec le nouveau code du travail, il y a eu une évolution sur la question. Et même dans l'ancien code du travail, c'était les employeurs qui posaient un peu d'actes avec un peu plus d'excès, des ailes dans leur chef. Parce que l'ancien code du travail préciser que la femme mariée peut contracter librement un engagement, tout ça, sauf opposition du mari. L'ancien code de la famille n'exigeait pas l'autorisation maritale pour embaucher une femme mariée.
Ça veut dire que le mari pouvait a posteriori s'opposer.
Voilà, pouvait s'opposer.
Pas a priori.
Non. Bon, si il s'oppose a priori, c'est-à-dire il le manifeste à l'employeur qui veut engager son épouse, mais s'il ne le manifeste pas, il n'appartenait pas à l'employeur d'exiger l'autorisation maritale. Donc, quand on lit et qu'on interprète de manière stricte la disposition de l'ancien code du travail, c'est cela qui ressort, c'est cette intelligence-là qu'on peut tirer de cela. Le fait que l'on puisse exiger à l'époque l'autorisation maritale, c'était une pratique qui s'était implantée dans les entreprises et tout ça, mais ce n'était pas légal.
Mais aujourd'hui,
le nouveau code du travail a même éliminé, supprimé cette disposition-là. Et ce qui veut dire que même l'homme, le mari, n'a même pas le droit de s'opposer.
Et donc, c'est la question de notre auditeur de Lubumbashi, Pierrot Camo, il n'a plus sa raison d'être, ou bien il a déjà sa réponse, parce que Pierrot voulait savoir qu'un homme dont la femme refuse de se soumettre et continue à exercer son travail malgré la décision de son mari, celui-ci peut-il porter plainte contre l'employeur?
En principe, il peut, la femme peut, aujourd'hui, selon le nouveau code du travail, engager ses services librement, et cela n'est pas soumis à une autorisation quelconque du mari. Mais quelque part, nous savons que c'est difficile de trouver dans des foyers des choses comme ça, c'est-à-dire la femme se lève et dit « Bon, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à travailler sans en parler avec son mari. Bon. »
Il y a toujours... On recommande le dialogue.
Oui, effectivement. Mais moi, je pense que là où il y a l'amour, la confiance, les problèmes ne se posent pas.
Mais on a entendu un cas d'une femme dont le mari lui a refusé le droit de porter plainte contre un débiteur. Ça, c'est quand même pas normal.
Effectivement, ce n'est pas normal. La femme doit jouer de ses droits, doit recouvrer son dû. Il ne faudra pas que l'homme s'oppose à cela. Mais si je comprends bien la dame que Sylvie a eue, qui a dû témoigner, cette femme dit bien que son mari ne veut pas qu'elle aille en justice parce que le mari est le genre de personne qui ne veulent pas avoir des problèmes, qui sont un peu réservés. C'est ce que la femme a donné comme justification. Ce n'est pas par autorité, par emprise qu'elle ne veut pas. Bon, il y a des gens comme ça, on connaît même parmi des hommes, des personnes à qui on doit de l'argent ou certains qui ont des créances, mais qui se résignent, qui disent « Bon, ça va, c'est son problème avec son Dieu, moi je ne vais pas. » On connaît aussi des hommes comme ça. Donc, il y a certaines choses qui se font par tempérament, par caractère d'une personne à une autre, indépendamment de l'autorité que l'on peut avoir sur sa femme ou sur ses enfants.
Mais en tant que juriste, expert pour Avocats sans frontières, il faut le rappeler, vous avez une boutique de droit. Si en couple, une femme vient poser un problème comme celui-là, dit « je vais exercer un emploi, mais mon époux refuse », qu'est-ce que vous lui conseillez?
Bon, la boutique de droit que nous avons, c'est pour aider la population à pouvoir jouir de ses droits, à pouvoir mener une vie correcte sur les plans légaux, à pouvoir bénéficier des conseils et des orientations pour se prévaloir dans les bonnes conditions de ses droits. C'est ça le rôle de la boutique et des conseillers. La boutique va orienter et conseiller, mais il faut aussi savoir que le rôle du droit et de la boutique n'est pas de casser des familles et des ménages. Voilà. Donc, va aider dans l'essence d'amener l'harmonie dans la famille et dans l'essence d'amener la femme à pouvoir jouir de ses droits comme il faut.
Quand bien même le nouveau code du travail aujourd'hui ne conditionne plus le fait pour une femme mariée de contracter des engagements de service, et que malgré ça, qui est des maris qui veulent passer outre le droit et dire « de toute façon, vous êtes mon épouse, moi je ne suis pas d'accord », qu'est-ce qu'on va faire?
Bon, en principe, sur le plan légal, la loi prévoit que devant pareille situation, la femme peut recourir au tribunal pour avoir l'autorisation de poser des actes corrects sans problème. Mais en ce qui concerne le code du travail, le code ne donne pas ne donne pas à l'homme le pouvoir d'autoriser sa femme de travailler. Mm-hmm. La femme est libre d'engager ses services comme elle veut. Si c'est là, c'est un problème qui doit se régler dans le couple, parce que la loi n'empêche pas cela.
Donc, le nouveau code du travail,
est très clair là-dessus. Là où la loi oppose ou exige une autorisation, quand il y a des contradictions, la loi donne ouverture, c'est-à-dire que vous pouvez rester en justice contre votre mari pour avoir l'autorisation de poser des actes valables.
Là, ça fait deux actions. Une action pour que le tribunal impose à votre mari de vous accorder l'autorisation maritale, et ensuite vous allez faire la procédure normale pour le cas en question. Comment ça se passe?
Bon, c'est-à-dire que quand vous allez en justice, la loi, les juges examinent. Mm. Examinent, ils trouvent que la décision de votre mari n'est pas fondée. Mm-hmm. Elle vous autorise à agir, à vous passer de son autorisation et à agir valablement. Mm-hmm.
Mais il y a crainte que ça puisse retourner contre la femme, menace, les divorces et tout ça. Et ça pousse certaines femmes à se résigner, à ne pas exercer librement leurs droits.
Effectivement, vous rendez compte que là, nous allons au-delà du champ d'action du droit. Nous sommes dans les relations personnelles et interpersonnelles, mmh, entre couples au sein d'une famille. Là, nous allons au-delà du champ d'action du droit, et cela doit être réglé en faisant recours aux amis, à la famille, pour pouvoir trouver des terrains d'entente, parce qu'à ce moment-là, nous sommes en dehors du champ d'action du droit.
Et que fait le droit? Quel est le rôle du droit si il n'est pas possible de sauvegarder l'unité et l'harmonie entre un couple? Et là encore, la sempiternelle question qui revient, ma foi, parfois, par rapport à certains aspects, la commission de réforme du droit, mon Dieu.
Non, mais la commission est là, elle fait son travail. Bon, je ne suis pas de la commission,
évidemment,
je ne sais pas quel est l'agenda et le programme de travail de la commission.
Je pense que d'ici là, il faudra inviter le professeur Kalongo Mbikai pour qu'il nous parle un peu du travail qu'ils sont en train de faire.
Oui, bon. Effectivement, mais le droit, tout en posant les problèmes, a donné une ouverture, c'est-à-dire donne l'ouverture à la femme de pouvoir se passer de l'autorisation de son mari pour agir. Et c'est là sur décision du tribunal, d'une juridiction. Mmh. Et c'est ça l'ouverture que la loi fait, ou le frein que la loi amène à la plus forte autorité, à la plus forte emprise de l'homme sur la femme.
Mmh. Bon, voilà, on a appris, les femmes qui ont compris, je suis sûr qu'elles nous ont écoutées religieusement et toutes ces remarques. Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est que par rapport au droit à contracter un engagement de travail, le nouveau code du travail ne conditionne plus l'autorisation maritale.
Voilà.
Ça, vraiment, il faut le dire.
Même l'ancien code.
Même l'ancien code.
Voilà, mais le droit d'opposition qui était prévu par l'ancien code a été supprimé.
Mesdames, vous pouvez aller contracter un contrat de travail sans pour autant que votre mari donne forcément une autorisation, mais pour l'intérêt de la famille, pour l'harmonie, il faut dialoguer, communiquer.
Effectivement, ce qui veut dire que tous les employeurs aujourd'hui en République démocratique du Congo n'ont pas le droit d'exiger l'autorisation maritale à une femme qui vient demander d'être engagée.
Très bien dit. Madame Dominique Amandou, je rappelle que vous êtes avocat, expert, en charge de la formation au sein d'une ONG qui s'appelle Avocats sans frontières.
Moi, je ne m'occupe plus des questions de
formation. Ah, vous occupez de quoi?
Je suis en charge d'un autre projet.
C'est quel projet?
Le soutien à la tenue des audiences foraines.
Ah,
le
d'accord.
Le soutien aux audiences foraines.
Audiences foraines, ça veut dire quoi, un mot pour les
auditeurs? C'est-à-dire la facilitation, l'organisation des audiences en dehors du siège ordinaire du tribunal. Donc, voilà, des audiences itinérantes.
Disons que les TGI m'ont été associés à MATT, là où vous connaissez, mais pour des raisons de l'administration de la justice, peuvent aller à Maluku, siéger à Maluku, par exemple.
Bon, il ne peut pas aller à Maluku, bon, parce que c'est en dehors de son ressort, de sa compétence territoriale, mais le tribunal de grande instance d'Njili,
voilà,
qui a son siège en Njili, peut lui aller à MATT, parce que c'est dans son ressort territorial.
Ah, super. Ok, réaction à suivre tout à l'heure. Ils sont nombreux, ces jeunes cadres universitaires qui n'accèdent pas à la fonction publique. On leur refuse ce droit au motif que leurs diplômes ne sont pas homologués. Ceci justifie entre autres effets la surpopulation dans les instituts et universités publiques. Quel est le critère de validité des diplômes universitaires? On en parlera dans ce magazine aujourd'hui, mais en attendant qu'on y arrive, rendons-nous à Matadi.
Okapi. Okapi à Matadi sur 102 FM.
L'Office des douanes et accises, OFIDA, a procédé le week-end dernier à une vente aux enchères. C'était au port de Matadi et ce qui était concerné, c'était les marchandises stockées au port depuis quelques mois qui n'avaient jamais été déclarées par leurs propriétaires et aussi des marchandises qui, quand bien même après avoir été déclarées, n'avaient pas été dédouanées après un délai de un mois. On en parle avec notre confrère Stéphane Mukendi qui est sur place. Stéphane Mukendi, Ntita, bonjour.
Bonjour Alter.
Pouvez-vous nous rappeler quels étaient les objectifs de cette vente aux enchères?
Eh bien Alter, l'objectif principal de cette vente est de permettre au trésor public de récupérer son dû sur la marchandise mise en vente. Mais cette vente est aussi organisée pour désengorger le port de Matadi. Vous savez que le port de Matadi est un port de transit. Et cette vente permet de créer de l'espace au port en liquidant certaines marchandises qui ont trop traîné, c'est-à-dire des marchandises qui n'ont pas été déclarées par leurs propriétaires. Ce sont là les deux grands objectifs de cette vente. Mais sachez aussi, Walter, que la vente publique est une stratégie dont use l'OFIDA pour pousser les opérateurs économiques à déclarer rapidement leurs marchandises. Mmh, voilà.
Mmh. Mais comment s'est déroulée la vente aux enchères de ce week-end, Stéphane? Dans quelle ambiance?
Alors, la vente publique était prévue pour deux jours, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. Alors, pour la journée de samedi, il faut savoir qu'elle a commencé très tard à 18h, et pourtant elle était prévue à 9h, mais c'est à 18h qu'elle a commencé. Elle était consacrée uniquement aux véhicules, à la vente des véhicules. Comme je l'ai dit, l'annonce de la vente publique est une stratégie pour pousser les opérateurs économiques à déclarer leurs marchandises. Eh bien, lors de l'annonce de la vente publique, il y a deux semaines, il y avait 82 véhicules qui devaient être mis en vente. Mais le jour de la vente publique, c'est-à-dire samedi, seule une vingtaine de véhicules a été exposée au public. Tout simplement parce que beaucoup de gens avaient déclaré leur véhicule 48 heures avant la date butoir, c'est-à-dire avant samedi. Concernant toujours la journée de samedi, sachez que beaucoup de commerçants ont été déçus. Selon eux, la commission de la vente publique a placé très haut la barre de prix. Lors de la vente publique précédente, disent-ils, le prix de départ était fixé à 300$ pour une voiture. Mais cette fois-ci, le prix initial était fixé à 460 000 francs congolais, soit à peu près 1000$ pour une voiture. Un autre problème, c'est qu'il y avait très peu de véhicules mis en vente, seulement une vingtaine. Alors, les commerçants se débattaient pour se les arracher en montant les prix. C'est-à-dire il y a des commerçants qui ont acheté des voitures plus chères que s'ils l'achetaient sous douane. Je prends un exemple, il y a un commerçant qui a acheté une Toyota Corolla, deux portières, qui était fixée à 460 000 francs congolais. Eh bien, il l'a acheté à 1 110 000 francs congolais, à peu près 2 500$. Il faut aussi ajouter que dans la foule venue pour cette vente, il y avait plus de commerçants que des particuliers. Eh bien, ces particuliers, ce sont des gens qui sont venus dans l'espoir de s'acheter une voiture, soit pour la famille, mais ils n'ont pas pu faire face à la concurrence de ces commerçants et leur rêve de faire des bonnes affaires s'est complètement écoulé.
Mais alors, concernant la journée d'hier dimanche, bon, est-ce qu'il y avait autant d'engouement que les samedis?
Oui, concernant la journée de dimanche était plus consacrée à la vente des conteneurs pleins et des marchandises en conventionnel. Mmh. Les marchandises en conventionnel, ce sont des marchandises qui ne peuvent pas être stockées dans des conteneurs. Eh bien, il y avait plus d'une vingtaine de conteneurs contenant divers articles qui ont été ouverts au public. Mais malheureusement, juste à quelques minutes du début de la vente, une forte pluie s'est imposée, créant des dégâts dans la ville de Matadi et poussant aussi la commission de la vente publique à reporter la vente pour aujourd'hui. Donc, la vente reprend aujourd'hui à 13h, heure de Matadi.
En ligne depuis Matadi, Madame Mbombo. Bonjour, Madame.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la commission de la vente publique. La vente des voitures, notamment, a eu lieu samedi dernier. Certaines personnes ont été un peu déçues parce que, selon elles, il y avait très peu de véhicules. Pourquoi alors qu'on annonçait un peu plus?
Vous savez, la publication que nous avons faite dans le journal avait entre autres pour objectif d'interpeller les opérateurs économiques afin qu'ils puissent dédouaner et enlever leurs marchandises des installations douanières. Donc, la liste de départ, par comparée à la liste définitive, il y a eu une différence qui est due au fait que les opérateurs économiques conscientisés ont tout fait pour procéder au dédouanement et à l'enlèvement de leurs marchandises. C'est ainsi qu'il y a eu une diminution sensible par rapport à ce qui a été publié.
Mais autre sujet, c'est que la barre du prix au départ était placée assez haut, si bien que les privés ne pouvaient pas oser marchander.
Pardon?
Nous avons appris que la barre de prix au départ était très haute, ce qui ne donnait qu'accès à certains opérateurs économiques bourrés d'argent.
Non, la mise de départ, comme à l'accoutumée, est constituée du prix que l'opérateur économique était censé payer au titre des droits et taxes. Alors, on ne peut pas aller en deçà, c'est la loi qui fixe cette mise de départ.
Mais et au final, avec le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de véhicules, avec la surenchère des uns et des autres, on s'est rendu compte que finalement, le prix au final était plus cher que d'habitude.
Non, en fait, c'était pas si cher que ça. C'est les gens eux-mêmes qui montaient les enchères. Il y a des choses, par exemple, dont la mise de départ était fixée à 100 000, mais finalement, qui ont été adjugées à plus de 900 000. Donc, les gens, on dirait qu'ils viennent s'amuser, ils ne comprennent pas le vrai sens de la vente publique. Ils montent les enchères, et ils arrivent même à des prix qui ne correspondent pas à la réalité de fait.
Mais alors, à ce moment, lorsque vous présidez une commission de vente, est-ce que vous devez laisser aller monter les enchères ou vous avez la possibilité d'arrêter?
Non, mais nous, c'est une vente publique aux enchères. Ça arrange les trésors publics quand les gens montent les enchères. Donc, les trésors publics retrouvent en compte.
Mais il y a des gens qui pensaient aussi qu'il y avait déjà certains véhicules qui étaient vendus à certaines personnes à l'intérieur de l'Ofida même.
Faux et archi-faux. Vous savez, les gens, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Nous sommes de ceux-là qui aspirent à un véritable état des droits et nous sommes là pour dire les droits et faire le droit, pratiquer les droits. Donc, je ne me vois pas, moi, à la tête d'une telle commission et accepter de telles irrégularités. Donc, la vente a été faite en bonne et due forme et le procureur de la République était là pour garantir si la loi en la matière était respectée.
Non, mais enfin, l'indice qu'ils avancent, c'est que il y avait très peu de véhicules, notamment, que c'est l'annonce.
Il y a aussi d'autres marchandises qui seront vendues aujourd'hui. Mmh. Oui, aujourd'hui, nous allons procéder à la vente de marchandises qui sont dans les conteneurs.
C'est par exemple tel que quoi? Parce que vous avez déjà la liste, madame.
Aujourd'hui, nous allons procéder à la vente de friteries. Mmh. Il y a des usines telles que usines de menuiserie. Et puis, il y a des pneus, il y a pas mal de choses.
Est-ce qu'avec cette vente publique, il vous est possible de constater qu'une partie des dépôts de l'Ofida Matadi a été dégagée et qu'il y a un peu d'espace?
Oui, puisque entre autres, pour objectif de cette vente, c'est de désengorger les ports et les entrepôts publics. Donc, il y a eu énormément de choses qui ont été dégagées. Et puis, on espère qu'à l'avenir, les opérateurs économiques prendront les dispositions nécessaires quand ils procèdent aux importations de faire de sorte qu'ils importent et qu'ils dédouanent et sortent leurs marchandises, puisque ce n'est pas des gaietés de cœur que nous vendons, puisque quelqu'un qui achète, il dépense son argent et puis il arrive, il se trouve buté au problème de dédouanement, donc c'est pas vraiment très très gai.
Entre-temps, la caisse de l'État s'est vue garnie de sous parce qu'ils ont tellement monté les enchères samedi.
Oui, les gens mettent les enchères. Ils ne comprennent pas. Hein. C'est comme ça, ils mettent les enchères, l'État retrouve son compte et quand il y a les reliquats, on donne à l'importateur.
Mais oui, alors dites-nous, quelle est la cote par le pourcentage que vous donnez à l'importateur?
Bon, normalement, nous commençons par désintéresser le créancier. Mmh. Et le créancier privilégié se trouve être le FIDA. après avoir désintéressé le sida et les autres services, s'il y a des reliquats, ce n'est que ces reliquats, il n'y a pas un pourcentage qui est connu à l'avance. Lui, il se contentera du reliquat. Si reliquat, il y a, mais s'il n'y a pas reliquat, bon, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même.
Mais il n'y a pas moyen de dépenser cela en termes de pourcentage, madame?
Non, non, il n'y a pas de pourcentage. Puisque parfois, nous vendons, nous vendons juste au prix de départ. Donc, quand il y a le prix de départ, c'est rien que la donne qui trouve son compte, les autres services sont marginalisés.
Est-ce que c'est vous ne pensez pas que c'est vraiment un véritable manque à gagner pour l'importateur qui
oui,
a payé un enjeu et qui,
c'est
et
comme ça
qui
que
au final...
Nous insistons et sensibilisons les importateurs de s'informer au départ quand ils procèdent aux importations. Puisque c'est un véritable manque à gagner.
Reste...
Il y a ces opérateurs qui ont déjà payé la douane et qui sont butés par exemple au problème de l'ONATRA.
Voilà.
Et si, entre-temps, le marchandise séjourne au-delà du délai prévu imparti, même s'il a déjà payé la douane, on est obligé de vendre. Donc là, il perd doublement. Il perd non seulement pour avoir payé le prix d'achat, il a payé le prix des douanes, mais buté par telle ou telle autre difficulté, il n'a pas pu payer par exemple le RACRA, et en fait, les délais impartis arrivent et on vend. Donc là, il perd doublement.
Ça ressemble à une sanction et certaines personnes crient à l'injustice, madame.
Pardon?
Ça ressemble à une sanction et il y a des gens qui croient que c'est injuste.
Oui, c'est vrai, ils peuvent penser que c'est injuste, mais c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi.
Alors, on pensait qu'on avait annoncé aussi notre vente aux enchères à l'autre port, celui de Boma. C'est prévu pour quand?
Pour le week-end prochain.
Et donc, à ce moment, il faut lancer cet appel aux importateurs concernés qu'ils ont 48 heures
avant la date prévue pour la vente. Donc, nous sensibilisons ces opérateurs qui ont des marchandises sous douane ou des marchandises qui sont entreposées dans des installations douanières de faire le nécessaire pour les sortir des installations douanières en ayant, disons, 4 jours, puisque d'ici le week-end prochain, nous allons procéder à la vente pour ce qui concerne le contrat de Boma.
Mmh. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la durée d'entreposage des marchandises au port de Matadi et de Boma?
Au port
pour
de
rappeler...
Matadi, en principe, c'est 2 mois.
Mmh.
Et au port de Boma, c'est 6 mois. Mais en principe, ben, nous sommes larges, hein? Nous sommes toujours larges.
C'est-à-dire?
Mmh.
C'est-à-dire?
Puisque si vous vérifiez la liste de marchandises qui a été vendue, par exemple pour ce qui concerne le port de Matadi, ce sont des marchandises qui ont fait plus d'une année, 2 ans, 3 ans. Donc nous comprenons les difficultés du moment et nous n'appliquons pas vraiment le délai de 2 mois.
Voilà. Madame Mbombo, je rappelle que vous êtes présidente de la commission La Vente Publique.
Je vous entends. De l'OFIDA.
De l'OFIDA, oui. Je vous entends sourire. Il y a un sourire dans votre voix. Vous êtes heureuse d'avoir remis l'OFIDA dans ses droits?
Pardon, il y a trop de frissons.
Alors, je sens que peut-être ça bouge déjà en prévision de la vente qui va être organisée tout à l'heure. Je me disais, ça vous réjouit d'être en train de ramener beaucoup d'argent dans les caisses de l'OFIDA?
Non, nous, notre objectif, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Notre objectif, c'est d'abord de désengorger le port et d'interpeller les opérateurs économiques. Hein? Puisque le recette, nous les maximisons quand les opérateurs économiques déclarent normalement.
Et voilà.
Mais le port, dans l'état où il se trouve, nécessite un désengorgement.
Très bien.
Ce qui fait que bon, nous procédons quand même à l'évacuation de certains conteneurs par la vente publique.
Madame Mbombo, merci beaucoup.
Merci.
Nathalie Moutéba, bonjour.
Bonjour Alter, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, merci, ils ont attendu, ils avaient besoin d'une voix comme la sienne pour se raccrocher davantage. C'est Okapi Action qui continue en seconde partie. Alors, vous vous êtes penché sur cette question des diplômes qui sont remis en question. Alors, est-ce qu'on peut savoir, essayer de comprendre pourquoi certaines entreprises refusent d'engager des jeunes gens ici, des universités privées?
Eh bien, Walter, il faut d'abord comprendre que les instituts supérieurs et autres universités de l'État sont débordés. Alors, depuis plus d'une décennie, des universités et instituts supérieurs privés ont vu le jour à travers le pays. Malheureusement, après 5 ans passés sur le banc des études, les finalistes se voient refuser une place sur le marché de l'emploi.
5 ans, voire davantage, avoir un diplôme, le présenter, on le rejette. Mm-hmm. Un diplôme, chef sans provision, comme on dirait. Est-ce que vous avez des cas précis, Nathalie?
Oui, Walter, nous avons posé la question au chef de la division du personnel de l'OCC, M. Mapé Pingaouka, on l'écoute.
Bon, quand nous avons des candidats qui viennent pour un recrutement, ils nous fournissent des renseignements. Mais s'il se fait qu'à la suite, le document n'est pas authentique. Dans ce cas-là, nous le recrutons au diplôme qui est inférieur à celui-là. Par exemple, son diplôme d'État. Et nous le recrutons au grade de maîtrise 1. Tenons pas compte de ce diplôme, ce n'est pas un diplôme reconnu par l'État congolais.
Voilà, on a fait 3 ans, 5 ans d'études, on a un diplôme des licences, mais lorsqu'on va dans une entreprise publique, on vous récrite en grade de diplômé d'État au grade de D6, c'est une pilule amère dure à avaler.
Très dur, Walter, très dur. Mais il revient donc non seulement au gouvernement, mais également aux universités et instituts supérieurs de régulariser leur situation administrative.
Mais y a-t-il aujourd'hui des universités dites privées qui ont un statut légal, disons, dont les diplômes sont valables et reconnus par l'État?
Oui, il y en a quelques-uns, il y en a 5 tout au plus, qui ont obtenu l'approbation des programmes et équivalence de niveau. Et encore, c'est temporaire. Il s'agit là de l'Université Congo du Bas-Congo, l'UNIBAS, comme on a toujours l'habitude de l'appeler.
Bazaï, par rapport à Bazaï.
Oh oui, par rapport à Bazaï.
La deuxième appellation.
Voilà, tout à fait. Il s'agit de l'Université de Mbujimayi, dans le Kasaï oriental. Il s'agit de l'Université de Bandundu, dans le Bandundu, et l'Université libre de Kinshasa, l'ULK, et ainsi que l'Université protestante du Congo. Ce sont là les 5 universités qui ont obtenu, je précise bien, l'approbation de programmes et équivalence de niveau.
Équivalence, c'est ce qu'on appelle parfois aussi équivalence des diplômes.
Voilà.
Il y a peut-être s'il y a d'autres universités dans d'autres provinces qu'on n'a pas pu citer ou...
Non, jusque-là, il n'y a que ces 5.
Il n'y a que ces 5-là.
Oui.
Oh là là. C'est assez terrible, donc elles ont réussi à devenir presque légales, si on peut le dire, tout à fait. Comment ont-ils fait? Quelles sont les mesures que ces universités-là, ne serait-ce que ces 5, prennent pour éviter que leurs finalistes ne soient pas rejetés comme tout le monde dans le monde de l'emploi?
Bien, Walter, nous nous sommes rendus à l'ULK, par exemple, qui est parmi les universités que nous avons citées, qui ont obtenu l'approbation des programmes équivalents des niveaux. Eh bien, nous avons rencontré Maître Yves Obabou, qui est assistant en faculté de droit à l'Université libre de Kinshasa. Il nous explique ici comment ils se sont pris.
L'ULK a connu ce problème il y a quelques 3 ou 4 ans, essentiellement pour les diplômés qui ont terminé la faculté de droit. Et essentiellement, ceux qui voulaient faire les barreaux ou la magistrature principale débouchée de la faculté des droits. Ceci est parti du fait que les barreaux considéraient l'Université libre de Kinshasa comme une institution privée et donc les diplômés ne pouvaient pas être admis. Nous avons effectué des démarches au niveau du ministère. En 2003, le ministère a accordé à l'Université libre de Kinshasa un arrêté portant approbation des programmes. Au vu de cet arrêté, nos diplômés ont été admis au barreau. Je précise que les problèmes se posaient essentiellement au barreau de Kinshasa, parce qu'au barreau des provinces, nos diplômés étaient admis sans problème. Donc c'est au niveau du barreau que les problèmes étaient posés. Aujourd'hui, ce problème est résolu. Au niveau de la magistrature, ici, je dis que le problème est en voie d'être résolu pour la magistrature civile, parce qu'au niveau de la magistrature militaire, nos diplômés sont nombreux, ont été nommés par décret présidentiel. À la magistrature civile, il y a concours, si pas cette semaine, la semaine prochaine, nos diplômés ont déposé leur dossier. Le dossier a été jugé recevable. Nous pensons qu'ils vont prendre part au concours. Nous espérons qu'ils vont réussir. Nous sommes confiants, nous sommes sûrs de nos diplômés. Ils vont réussir et nous espérons qu'ils seront nommés.
Et voilà, le chemin n'a pas été facile à entendre, hein, Maître Yvon Babou. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est pourquoi ces universités connaissent ce problème. Il me semble que plusieurs démarches administratives sont à entreprendre avant la création d'une université ou d'un institut supérieur, avant qu'on octroie l'autorisation de fonctionnement, hein, tout de même.
Oui, Walter, effectivement, il y a plusieurs démarches administratives à entreprendre, mais selon Maître Babou, que nous avons interrogé, il semblerait qu'il y ait une certaine confusion qui se serait créée au niveau des différentes institutions elles-mêmes. Je vous propose plutôt de l'écouter.
Il y a d'abord une confusion qui a été créée au niveau du ministère. Permettez-moi de le dire, évidemment, ça n'engage que moi, ça n'engage pas l'institution. Pour créer une institution d'enseignement supérieur ou universitaire, il y a toute une procédure à suivre. Il faut déposer les dossiers au niveau de la commission permanente des études. Après examen du dossier, la commission transmet le dossier au ministère pour arrêter. Le ministre prend d'abord l'arrêté portant autorisation de fonctionnement. Après un certain temps, une période probatoire, si la viabilité de l'institution est confirmée, le ministre signe un deuxième arrêté portant agrément provisoire. C'est donc cet arrêté, troisième arrêté portant approbation des programmes, que le problème a été résolu. Alors nous autres juristes, nous posons un problème, une question, à savoir la valeur et la place de cet arrêté par rapport aux arrêtés portant autorisation de fonctionnement et aux l'arrêté portant agrément provisoire. Parce que, à notre connaissance, pour que l'université soit reconnue, il faut deux arrêtés. L'arrêté portant autorisation de fonctionnement et l'arrêté portant approbation et portant agrément provisoire. Mais est-ce qu'il faut nécessairement un arrêté portant approbation des programmes? Si oui, il revient au ministère de répondre à cette question et donc de demander à toutes les institutions de déposer des dossiers.
Voilà, on vient d'entendre, il faut dire que c'est un dossier assez grand. Tous les étudiants ne peuvent pas aller à l'université de Kinshasa, ou à l'université de Lubumbashi, ou à l'université de Kisangani. Il y a beaucoup de candidats actuellement, ces campus sont débordés littéralement, il faut le dire. Et les universités et instituts privés de niveau officiel étaient autorisés à fonctionner pour désengorger les autres institutions. Et pour ne citer que les cas de certaines facultés comme la médecine ou le droit, les mêmes professeurs qui enseignent à l'université de Kinshasa vont enseigner les mêmes matières dans les autres universités privées. Et c'est là qu'on s'interroge pourquoi des diplômes ici sont reconnus et là-bas ne le sont pas. This is the question. Des réactions au 081-890-63-94 ou à action@radiookapi.net. En tout cas, pour les autres instituts supérieurs et universités, la solution c'est donc d'entreprendre les différentes démarches afin de permettre aux étudiants ici de leurs institutions de ne pas être victimes d'un rejet, d'être continuer de considérer comme des 6 alors qu'ils ont une matière équivalente à celle d'un licencié ou d'un gradué en droit. Nathalie Mouteba, merci beaucoup. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre très très important de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Le problème d'homologation des diplômes se pose toujours et il y a des étudiants qui deviennent chômeurs parce qu'ils n'ont pas un diplôme de l'UNIKIN ou d'autres institutions publiques.
Oui, je pense que dans tout pays, il y a des règlements qui régentent l'enseignement supérieur. Et dans notre pays, c'est vrai, il y a des universités ou instituts supérieurs qui sont reconnus et d'autres ne le sont pas. Il est vrai que les enseignants, on me dit que les enseignants sont les mêmes qui vont ça et là pour enseigner. Il faut considérer qu'il y a différents degrés de qualité des universités et des instituts. Le seul enseignant ne suffit pas. Il y a l'organisation même de l'université ou de l'institut. Il y a la conformité de l'institut ou de l'université créée aux règles et aux programmes qui sont établis par l'État. Il y a tout un certain nombre de conditions qu'il faut absolument remplir pour pouvoir être véritablement un enseignement de qualité au niveau du supérieur ou de l'université. Moi, ça ne m'étonne pas personnellement que l'État exerce effectivement son droit de regard, comme son droit de refus ou son droit de réserve sur certains enseignements qui sont donnés ça et là.
Mais professeur Ngoma Binda, vous serez quand même d'accord avec nous que tous les candidats aux études universitaires ne seront pas à venir à l'UNIKIN qui est déjà très largement débordé, il n'y a plus d'espace.
Là, vous avez raison. J'ai toujours pensé, moi, il faut davantage libéraliser l'enseignement tout en faisant que l'État ait le droit de regard, comme je disais tout à l'heure. L'université de Kinshasa est complètement débordée, toutes les universités qui existent ici sont complètement débordées, donc il faut en arriver à un certain moment où, comme aux États-Unis, l'enseignement supérieur et universitaire soit essentiellement entre les mains des privés. Si par exemple l'État pensait réellement à créer une politique de l'enseignement, il devrait pouvoir instituer une université dans chacune des provinces, une grande université qui devrait pouvoir fonctionner normalement et en leur donnant l'autonomie de gestion nécessaire, évidemment l'autonomie financière aussi. Voilà une piste de solution pour désengorger notamment l'université de Kinshasa.
Alors, ce qu'on attend, par exemple, d'un jeune cadre universitaire, c'est sa capacité de s'impliquer dans le marché de l'emploi, de transformer la société, de bien travailler. Et ce que nous constatons, c'est que avec certaines entreprises privées, notamment ici à Kinshasa, beaucoup de jeunes cadres sont issus des universités privées parce qu'ils ont vu les portes leur fermer dans les entreprises publiques. Et ma foi, ces entreprises privées marchent très bien, on a tendance à croire que la formation est aussi bonne même dans les universités privées, professeur.
Oui, moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Et probablement pour pouvoir davantage déterminer la qualité des jeunes gens à recruter, c'est qu'il faudrait désormais constituer des concours. Que ce soit des enfants qui terminent à l'université ou dans les institutions privées d'enseignement, devraient pouvoir passer à des concours. Et alors là, il y a comme une sorte d'égalité. Je sais qu'il y a une certaine qualité dans l'enseignement privé, peut-être non agréé, mais c'est le concours qui devrait pouvoir départager les gens pour un concours alors fait dans les normes qui fassent que effectivement il y a suffisamment d'objectivité pour pouvoir retenir les meilleurs. Je ne sais pas si je vous ai pas bien entendu pour la dernière question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
Oui, on a bien entendu la réponse, professeur. Mais il y a quand même deux poids, deux mesures lorsqu'on observe cette question. L'État qui autorise une université ou un institut supérieur privé à fonctionner, et puis l'État qui ne reconnaît pas le diplôme que cet institut délivre. C'est quand même contradictoire.
Oui, c'est vrai. Vous savez, il y a la loi organique qui n'a toujours pas changé. L'enseignement supérieur et universitaire est le monopole de l'État, mais le fait de la pléthore de demandeurs d'enseignement a fait que des institutions ont poussé et ont été presque sur le tas, laissées fonctionner comme elles voulaient. Et ça pose le problème effectivement de la reconnaissance de toutes ces institutions. Donc, au total, moi je pense que l'État devrait pouvoir, pour casser cette contradiction, devrait pouvoir agréer celles qui effectivement remplissent les minimums de conditions. Ou le maximum, il faut dire, parce que si on veut un enseignement de qualité, il faut le maximum de conditions, et alors là, reconnaître effectivement les diplômes, et faire l'inspection des enseignements, et voir la qualité des professeurs qui y vont, parce que quand vous dites les enseignants de l'UNIKIN nous vont dans ces institutions, mais peut-être c'est le tiers, pas même le tiers, c'est le dixième de ces enseignants qui vont dans ces institutions. Les autres sont des gens qui qui sont ramassés à gauche et à droite dans l'administration, par-ci, par-là, qui deviennent des enseignants. Donc, en fait, la qualité des enseignants n'est pas tout à fait attestée dans ces institutions. Et c'est cela pose problème.
Rigobert, Yuma Ndouani, bonjour.
Bonjour les auditeurs.
Alors, on a appris que à cette réunion, les femmes ont discuté autour de quatre thèmes. Quels sont ces thèmes et qu'est-ce qui a motivé leur choix?
Oui, Walter, il y a eu quatre thèmes, comme vous venez de le dire. Le premier thème, c'était « Femmes au maniement ». Vivras-tu toujours dans l'ignorance et la sous-information pour accepter n'importe quoi? Où te mobiliseras-tu pour l'information, l'éducation, la formation, afin de défendre la cause des femmes et chercher leur promotion, surtout à cette période où on prépare la journée de la internationale de la femme. Deuxième thème, la synergie au maniement, une coalition, concentration des forces des différentes structures pour fournir plus d'informations au sujet d'un problème et agir avec efficacité ou une stratégie de renforcer la domination des uns sur les autres, surtout des hommes sur les femmes. Quel sera le résultat? Et troisième, la nécessité et l'impact de l'implication des femmes au maniement dans la CONADER, PNDDR et DDR. En fait, c'était prévu aussi pour la CEI, mais c'est remis pour la fin du mois. Et le quatrième thème, la femme au maniement et l'UNICEF. Alors Walter, pour revenir à ce qui a motivé le choix de thème, avant de donner cette motivation, je vous dis qu'il y avait aussi là-bas, non seulement les femmes, mais les représentants des organismes nationaux et internationaux. C'est le cas de OCHA, UNICEF, CONADER et PNUD. Quant à la motivation, je vous propose d'écouter la promotrice et coordinatrice des films, Madame Marie-Azama Moussongela.
Ce sont les circonstances du moment qui motivent le choix des thèmes à traiter le 15 et le 30 de chaque mois aux réunions ordinaires d'AFIM. Le 8 mars approche, il fallait dire que la femme au maniement va-t-elle demeurer toujours dans l'ignorance et la sous-information ou se mobilisera-t-elle pour sa promotion? Il fallait interpeller la femme à la nécessité et l'impact de son implication dans ce programme-là et le développement, travail, investissement. À travers ces réunions, à travers les activités sur le terrain d'AFIM, la femme au maniement parviendra à se découvrir qu'elle est un être humain au même titre que l'homme, qu'elle est appelée aussi à collaborer, à cheminer avec l'homme dans le bien-être de la base et le progrès de la province. Elle doit travailler aussi, elle doit s'informer aussi, elle doit être formée et éduquée.
Nous avons entendu dire que la femme devrait s'impliquer dans le programme désarmement, démobilisation et réinsertion. Quelle pourrait être l'implication de la femme du maniement dans ce processus, Rigobert?
Walter, à cette question, l'assistante à la CONADER chargée des enfants associés aux forces et aux groupes armés, EAFGA, mademoiselle Akupendae Wabobela Monique, à qui nous avons posé la question, nous montre que la femme est incontournable. En fait, c'est ce qu'elle a voulu démontrer. On l'écoute.
Les femmes vont s'impliquer dans cette activité comme des sensibilisatrices. Parce que quand nous désarmons, quelque part là, la personne qui est désarmée, la personne qui sera démobilisée, la personne qui sera insérée, a une famille. Et cette famille-là, dans cette famille, il y a deux mamans, il y a deux enfants, il y a deux jeunes filles. Donc on comprend que la femme est impliquée dans cette démarche du désarmement, démobilisation et réinsertion. Si ce n'est pas son enfant qui a été pris par la force pour faire l'armée, ça peut être son mari qui n'est plus à la de continuer dans l'armée, ou encore son grand frère qui souffre de la maladie chronique, ou encore son cousin qui est un blessé de guerre et qui ne peut plus continuer à faire l'armée.
En prévision donc de la journée internationale de la femme, nous avons entendu un autre thème, à savoir la femme et l'UNICEF. Sur quels aspects de traitement des femmes se sont-elles accentuées par rapport à cette thématique?
Oui, les femmes ont pris au sérieux le problème de leurs enfants, élèves. Une des femmes présentes à cette réunion, Madame Vumilia Florence, présidente de l'ONG Reconstruction pour le développement du Congo SERDEC a parlé des mauvais traitements dont sont victimes les élèves dans certaines écoles de la place et de l'intérieur. Il s'agit notamment du fait que certains enseignants et chefs d'établissement font des élèves filles et leurs amantes, mais elle a surtout insisté sur l'exploitation des élèves par les écoles, le plus souvent pour des fins privées. Elle parle en swahili, on l'écoute.
Makosa yemi naona kwa walimu kuhusu watoto. Walimu na wadirekteri wanakamata watoto kuwasombeshaka mabriki, kupika mabriki, na haikuwa sema mabriki ya masomo, ni mabriki ya makazi zao, mabriki zao wenyewe. Humu mvile njo tuko naona amu. Hii hivi tunaenda kwa interior, tunaenda kwa interior, tunaenda kukuta kia watoto, kazi ya watoto kule kwa interior ni kusenga samaki, kuvuna mpunga, kufanya kazi ya babibi ya walimu, kutumika, kufula manguo. Hivi watoto wanasoma tu mara mbili au mara tatu tu kujuma, ile ingine masiku yote masiku za kazi, na watoto ukibakuta kubapozea hata makesio juu ya masomo, abajua hata kitu wala abafate masomo mzuri sawa sawa na jinsi na stahili.
Alors, on peut prendre un petit résumé en français pour ceux qui n'ont pas compris les Swahili, Rigobert?
Oh oui, effectivement, en résumé, cette maman se plaint du fait que les élèves, surtout des écoles de l'intérieur, suivent le cours deux ou trois jours sur six, et le reste, ils sont pratiquement des travailleurs de la femme des enseignants et des enseignants. Voilà, en résumé.
Mais les enseignants sont pointés du doigt. Est-ce que vous avez réussi à les rencontrer pour requérir leur point de vue?
Oh oui, nous n'avons pas fait d'efforts pour les trouver, ce sont eux-mêmes qui devaient réagir. C'est ainsi que M. Kaloumé, qui est au KPA, chef d'antenne provinciale des planifications et statistiques scolaires et chef de division provinciale de l'éducation à l'intérim, M. Manema, a dit que et il ne connaît rien de cette situation. Pour lui, toute situation anormale sur l'éducation doit leur être donnée par les rapports des différents gestionnaires des écoles. Or, jusqu'à présent, aucun rapport n'a fait mention, selon M. Kaloumé. Il a dit que, selon le règlement en cette matière, il n'est pas permis à un enseignant d'exploiter un élève sous quelque forme que ce soit. Un enseignant surpris en flagrant délit pendant ou en dehors des heures de cours est punissable conformément à la loi cadre, a-t-il insisté. Mais toutefois, M. Kaloumé a lancé un message aux enseignants et aux parents.
Ce que je peux demander aux mamans et voire même à tous parents, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser emporter par les enseignants qui vont en dehors des normes, en dehors de règlements, en dehors de la loi cadre qui interdit formellement l'exploitation des enfants. Et aux enseignants, je leur demande formellement de suivre la loi cadre. Ils ne sont pas là, nous ne sommes pas là pour exploiter les enfants, mais plutôt nous sommes là pour l'enseignement d'éducation des enfants et non pas les exploiter d'une ou d'une autre forme. C'est ce que je demande aux enseignants et aussi aux gestionnaires d'éveiller aux activités, à toute activité des enseignants dans leurs écoles. C'est ce que nous demandons pour que les enfants profitent de notre enseignement et de notre éducation.
Et voilà, on vient d'entendre une voix du côté enseignant, Rigobert Youmandouani. Merci beaucoup de nous avoir fourni ces informations. On va retrouver notre invité dans quelques instants en la personne de Madame Maria Zama Moussongela. D'ici là, bonne journée à Kindu et à la prochaine.
Merci Walter.
Okapi, le souffle du Congo. Okapi.
Ben voilà, les femmes du Manima préparent déjà la journée du 8 mars, journée qui est consacrée à la femme au niveau international. Elle voudrait que la femme s'implique dans le processus de prise des décisions. L'association des femmes intellectuelles et lettrées du Manima, FILMA, mobilise ses membres pour une participation active dans toutes ses activités. On en parlait notamment de l'implication de la femme dans le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. En ligne depuis Kindu, Madame Marie Zama Moussongela. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes présidente de cette ONG AFILMA. Vous préparez déjà la journée du 8 mars. Quel sera le grand thème pour vous à ce qui concerne les femmes du Maniema? Qu'est-ce qui doit être fait?
Pour le 8 mars,
oui.
Avec Madame Fatou, des droits humains à la Monique, on a retenu trois thèmes. Mm. La femme et les élections, la femme et la justice, la femme et l'insécurité. C'est ça les trois thèmes de la journée du 8 mars au Maniema.
Mais oui, vous dites, vous voulez que la femme participe aux activités de la société, à la prise des décisions, qu'elle s'implique dans ces choses-là. Comment la femme peut-elle s'impliquer? Par quelles actions concrètes?
Oui, la femme, c'est un être humain au même titre que l'homme. Par les actions de développement communautaire, les actions politiques pour une femme qui veut de la politique, et même les actions militaires. Parce que quand nous parlons par exemple de la CONADER, il y a les femmes qui ont participé aux hostilités en relais de forces ou volontaires.
Mais oui, vous savez, madame, si on devrait évaluer le niveau de développement d'un pays par rapport au nombre de séminaires faits, entre la RDC serait l'un des pays les plus développés. Il y a beaucoup d'ateliers qui s'organisent, mais on attend des actions concrètes, des réalisations sur le terrain. Vous dites par exemple dans le développement, qu'est-ce que la femme peut faire comme activité de développement pour qu'elle implique, pour qu'elle ait un impact sur le niveau social et économique à Kindoumène par exemple?
Ça va. Par exemple, la femme, elle doit lutter à ce qu'elle obtienne ses droits socio-économiques. Si vous prenez l'exemple de la fille, à Kindou, le Maniema est une province abandonnée. Alors, la femme à fille, pour montrer sa participation et contribution au bien-être de la base, au progrès de la province, on a plusieurs activités. Par exemple, cette lutte contre l'ignorance alarmante de la femme, le 15 et le 30 de chaque mois, et en transmettant ces différents sujets à l'intérieur de la province dans les 7 territoires du Maniema. Des activités sur le terrain, la polyclinique à Film au quartier 3Z, qui était le champ des jadis de la population de Kindou. Il y a des femmes qui accouchaient par terre la nuit. L'école primaire à Film, toujours au quartier 3Z, c'est une façon de contribuer au secteur éducatif et de désengorger certaines structures éducatives au Maniema, où il y a 80 élèves par classe, l'application, le rendement médiocre, un primérien qui ne sait plus écrire, un diplômé qui ne sait plus parler français. Le petit marché à Film et plusieurs autres centres de négoce à l'intérieur de la province pour essayer, disons, de raccourcir la distance aux femmes pour acheter une petite boîte de sel, bouteille d'huile, ainsi de suite, et surtout les femmes rurales pour attraper du savon, sel de cuisine, et écouler leurs tomates, bananes, qu'elles reviennent avec du champ. Il y a la plateforme Barza de femmes au Maniema, qui est un cadre de concertation, d'études, de mise en commun, de réflexion, de problèmes réels à la femme dans cette province. Puisque bien que nous soyons tous Congolais et Congolaises, chaque province a ses réalités suite à sa situation géographique, aux mentalités et coutumes des habitants.
Mais Madame Azama, est-ce que vous avez l'impression que votre message, que le message de la FILMA, est compris par les autres femmes? Parce que vous êtes l'association des femmes intellectuelles et lettrées du Maniema. Et les autres femmes du Maniema qui n'ont pas étudié, qui ne savent pas écrire, où sont-elles? Vous les abandonnez? Vous les ignorez?
Oui, un jour j'aurai l'occasion de vous transmettre la fiche d'identification de l'ONG d'AFIM. C'est une association de femmes intellectuelles et lettrées au Maniema, mais avec cible tout être humain femme, la femme dans toute son intégrité, femme paysanne, marchande, revendeuse, analphabète, fille et mère, fonctionnaire et travailleuse à faible rémunération. J'écris les réunions en français, mais je le préside en swahili. Vous pouvez demander aux gens de OCHAP, NID, CONADER, UNICEF qui étaient là.
Est-ce que les autres femmes qui n'ont pas étudié, qui ne savent pas écrire, comprennent votre message? Est-ce qu'elles s'impliquent dans vos projets?
Oui, oui. D'ailleurs, la plupart de mes animatrices, elles ne savent pas écrire en français, mais elles amènent le message à la masse féminine non instruite. Mm-hmm. Moi, je suis née au Maniema. J'écris le réunion. En français, je le préside en swahili et je le transmets à l'intérieur de la province en swahili. Et on donne l'occasion aux femmes non instruites de poser les questions. On peut être non instruite, mais on est sage.
Voilà, ça c'est une phrase en swahili pour dire que l'intelligence et la sagesse, c'est deux choses distinctes. Merci beaucoup, Madame Azama, d'avoir répondu à nos questions et bonne chance pour vos projets.
Oui, bonne chance, au revoir.
Merci beaucoup.
En FM, sur Internet, par satellite, Okapi, la radio proche de vous.
Des réactions continuent à arriver par rapport à cette question des diplômes. Jean Kaktukula de Lubumbashi pense qu'à Lubumbashi, nous informe qu'à Lubumbashi, il y a des universités privées qui sont agréées et dont les diplômes sont homologués. Il nous cite le cas de l'université méthodiste. Jean Kaktukula encore, le prof Binda donne l'impression que l'université publique est la meilleure. Jean Kaktukula pense que ce n'est pas vrai, car à Lubumbashi, selon Jean Kaktukula, l'université a failli être fermée, car selon lui, il manquait des professeurs dans les facultés de droit, des sciences économiques et de la médecine. Jean Kaktukula nous renseigne qu'on a dû faire appel aux personnes extérieures pour venir dispenser des cours. Voilà, très bien. Un auditeur qui nous envoie un SMS en disant que tout ce qu'on défend, c'est justifié au niveau supérieur, mais au niveau de la police, hein, il y a des questions aussi, paraît que là, ça pose problème, qu'on n'a pas les diplômes reconnus par l'État. Okapi Action va se quitter dans quelques instants. Je vous rappelle quelques titres. La femme mariée voit certains de ses droits limitée dans l'exercice. Elle doit requérir l'autorisation de son mari pour exercer ses droits. Mais en ce qui concerne les droits du travail, le nouveau code a enlevé cette limitation. Ils sont nombreux ces jeunes cadres universitaires qui n'acceptent pas à la fonction publique. On leur refuse ce droit au motif que leurs diplômes ne sont pas homologués. Ça justifie entre autres effets la surpopulation dans les instituts supérieurs et universités publiques. Okapi Action, c'est terminé. Toute l'équipe vous remercie de l'avoir suivi. Et c'est réjoui de vous retrouver demain, 9h-2h de Kinshasa, pour une nouvelle aventure dans vos vies. Ici, Walter Molondi, au micro de Okapi Action. On vous retrouve demain avec le même plaisir.